en dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Jérémy Besset,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté, toute la place est pour la beauté, écrivait René Char, a fortiori en ce moment puisque c'est sous le soleil de la beauté que se déroule cette année le printemps des poètes qui fête son 20e anniversaire. L'occasion de parler de la beauté de la poésie et de la poésie de la beauté avec trois invités. La poétesse et directrice artistique du printemps des poètes Sophie Nolot, l'actrice et metteuse en scène Rachida Brakni qui est la marraine de cette 21e édition et le poète et éditeur Bruno Doucet qui publie avec Thierry Renard Éphéméride poétique pour changer la vie, une anthologie consacrée à la beauté. Le printemps des poètes, c'est jusqu'au 25 mars et vous m'en direz des nouvelles.
J'ai vu une enfance violentée rêver devant un amandier en fleurs. J'ai vu un homme emprisonné retrouver souffle à la lecture d'un poème. J'ai vu le ciel déverser des tonnes d'azur sur nos morts. J'ai vu la neige brûler moins que les larmes. J'ai vu le soleil consoler un coquelicot et réciproquement. J'ai vu un arc-en-ciel en cavale sous l'orage. J'ai vu un ange noir chanter sous les étoiles. Et je n'ai trouvé qu'un mot pour dire cela qui transcende le chaos, l'éphémère et la joie mêlée de nos vies. La beauté.
Bonjour Sophie Nolot.
Bonjour.
C'est vous qui avez écrit ces quelques vers à l'occasion justement de cette édition 2019 du Printemps des Poètes. Comment sont-ils sortis de votre plume?
Je ne sais pas si ce sont des vers, parce que je ne me dis pas poète, je suis écrivain, je connais beaucoup de poètes, je connais beaucoup de poèmes, j'aime immensément la poésie et je sais que je ne suis pas poète. Parce qu'il y a une chose, il y a une magie que je n'ai pas dans cette écriture, mais qu'en revanche j'ai dans ma vie. Et je sais que ma prose est très influencée par la poésie. Dans un livre mien, je ne serais pas allée à la ligne. Mais là c'est vrai, vous l'avez remarqué, pour les 20 ans du Printemps des Poètes, j'ai eu besoin de cette scansion qui du coup ressemble à un poème. C'était beau cet accent. C'est toujours très émouvant d'entendre ces mots par une voix autre. La vérité, c'est que la beauté m'est venue vraiment pour contrer la mort. C'était un moment assez banal, assez intime, assez partagé, parce que nous allons tous mourir et donc on est tous face à ça à un moment donné, quand les êtres qui vous sont les plus chers s'éclipsent, y compris des êtres qui ne sont pas humains. Pour ma part, c'était un cheval, le cheval de ma vie. Et je me suis rendu compte, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qui nous tient quand tout s'effondre, et tout s'effondre aussi pour la vraie vie, enfin, ce qui donne un sens à nos vies, ce qui change la vie en destin, comme l'écrivait Malraux, c'est que ça va s'arrêter. Si c'était immortel, là, ça deviendrait assez lassant, et beaucoup moins intense et essentiel. Et en collectant tout ça, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit la seule chose qui me tienne, qu'est-ce qui me sauve quand vraiment tout va mal? Et c'était la beauté. C'était la beauté d'un paysage, c'était la beauté d'un vers, c'était la beauté d'un amour, c'était la beauté qui dure. Et c'est pour ça qu'après l'ardeur l'année dernière, je me suis dit oui à la beauté, surtout que ce thème... Enfin, je crois plus au mot qu'au thème, et c'est la beauté, c'est très à la fois ostracisé. Enfin, c'était pas évident, ça pouvait sembler facile comme ça, alors oui, que ça ne l'est pas du tout. Et justement, j'aimais bien cette mise en danger qui était de dire prenons la beauté, demandons à Rachida Brakni qui est si singulière, demandons à Enki Bilal qui est si violent, pour justement que la beauté soit la plus vaste et la moins attendue et la plus vitale possible.
Bonjour Rachida Brakni.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez quand on vous parle de beauté?
Beaucoup de choses. C'est une notion qui est très, très vague, mais qui est aussi tellement multiple. Et je pense que c'est vague parce que c'est multiple. La beauté, j'y vois beaucoup, beaucoup de choses. Sophie, là, parlait de son cheval. Ça me parle. Elle parle de nature. Ça me parle. La beauté, on la retrouve en toute chose. Et c'est en ça que c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est un mot qui est tellement galvaudé, je trouve, et qui est réduit presque, qui a perdu de son ampleur.
Qui s'est banalisé.
Oui, qui s'est banalisé et puis qui est galvaudé dans le sens où la beauté aujourd'hui, pour parler de façon très très triviale, très prosaïque, on va adosser ce mot à une espèce de perfection qui est liée à de la chirurgie esthétique, par exemple. Et or, la beauté, ce n'est pas ça, c'est plutôt l'inverse de ça. Et en ça, je trouve que c'est intéressant. Et d'ailleurs, quand on se plonge dans différents poèmes qui ont trait à la beauté, on mesure à quel point ce mot est un puits sans fond et dans lequel il est très très agréable de plonger là-dedans et de puiser plein de choses.
Rachida Brakni est donc la marraine de cette édition 2019 du Printemps des Poètes. Le parrain, si j'ose dire, c'est le dessinateur Enki Bilal qui signe l'affiche de cette manifestation. Cette année, c'est une affiche qui a de quoi surprendre, parce que c'est une affiche qui représente une femme, ce qui n'est pas très étonnant en ce qui concerne l'œuvre d'Enki Bilal, sauf que cette femme que l'on voit sur l'affiche, elle a les yeux fermés, Sophie Nolot.
Oui, c'est très beau.
Ça, c'est étonnant.
Parce que, d'abord, Enki Bilal, c'est grâce à Ernest Pignon-Ernest qu'il a dit oui. C'était comme un passage de flambeau, et c'était important pour moi qu'un tel artiste accepte de signer, plus que de signer, de penser, d'imaginer une affiche originale. C'est pas du tout un dessin qu'il a pris dans ses cartons, c'est vraiment quelque chose. Il a laissé mûrir. Il m'a dit oui il y a des mois. Il a fallu le temps qu'il s'y mette, il a fallu le temps qu'il se sente aussi légitime et qu'il se pose la question de quoi dessiner. Le côté graphique, lui est très vite devenu obligatoire parce que c'est sa signature et en même temps...
On reconnaît tout de suite son style.
Et voilà, donc ça c'était important parce qu'il voulait pas non plus se payer de mots comme pourrait le faire quelqu'un qui en joue et donc il voulait être reconnaissable aussi là-dedans. La femme, en effet, comme vous le dites, s'est très vite imposée et il le racontait l'autre jour. Au début, elle avait les yeux ouverts. Et il s'est rendu compte que ça n'était pas possible.
Ah, pourquoi ?
Parce que du coup, ça devenait ce que dit Rachida, ça devenait un canon de beauté, ça devenait une chose comme ça, ouverte sur... Il y avait un côté, non pas prétentieux, mais il y avait une chose qui était trop, trop affirmée, trop évidente, trop extériorisée. Même si ce ne sont pas ses mots. Et les mots, c'est important pour Enki Bilal. Il est né à Belgrade, d'un père yougoslave, d'une mère tchèque. Il découvre le français à 10 ans en arrivant à Paris, en lisant du Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. C'est quand même incroyable, cette façon de plonger dans la langue. Et pour lui, c'est comme pour Rachida, quand elle explique à la lecture d'un poème de Prévert, d'un Prévert dit par cœur, c'est vraiment les mots qui l'ont aimanté et qui ont fait sa marque de fabrique, pour le dire un peu crûment. Et donc, il raconte que dès que les yeux se sont fermés, avec ce bleu qui pour lui est très reconnaissable et aussi très ancien, parce qu'il y a du bleu, cette tache bleue par exemple dans Tico Moon, Michel Piccoli la porte. Alors à l'époque elle est malfaisante, mais partout il y a du bleu. Et vous verrez son prochain album, cette tête d'homme avec du bleu, il l'a dessinée, enfin il l'a peinte en pendant de notre affiche. Donc un versant féminin, un versant masculin. Et je trouve ça très beau parce que ça dit combien la vie d'un artiste, elle est faite de ça et que tout se nourrit. Donc, vous la décrire, ce serait dommage parce que c'est tellement vaste. C'est comme, enfin moi, quand il me l'a envoyé, j'ai d'abord vu un continent. On est sur RFI.
Oui.
J'ai vraiment vu ça. J'ai ce bleu. J'ai vu des océans. J'ai vu des paysages. J'ai vu des rivières. Enfin, j'ai vraiment vu une cartographie immense. Et c'est très touchant qu'il se soit posé la question à ce point. Je sais qu'à un moment, quand je lui ai dit voilà le thème, c'est la beauté. Pendant longtemps, il m'a dit mais Sophie, je crois que je vais écrire la beauté point d'interrogation parce que je ne me sens pas d'affirmer voilà la beauté, c'est ça. Et je pense que le fait d'avoir fermé les paupières sur ce rêve intérieur qui est l'endroit, comme il le dit, où la parole des poètes naît, ça a résolu le dilemme et ça a fait cette affiche que je trouve à la fois très mystérieuse et très évidente presque.
Voilà, Enki Bilal qui sera d'ailleurs avec nous au mois d'avril pour la sortie justement de son nouvel album et qui vous accompagnait samedi au Théâtre du Rond-Point, Rachida Brakni, puisque c'est le complice du spectacle d'ouverture qui s'est déroulé là-bas. Autour de vous, il y avait des écrivains, des artistes d'horizons extrêmement divers. Comment est-ce que vous les avez choisis ?
Alors, je ne suis pas allée très loin. J'ai pensé aux gens que j'aimais, aux gens que je connaissais. Et puis, ce qui m'a intéressée, c'est que j'avais envie, en tout cas, moi, j'avais envie d'entendre, de voir des personnes qu'on n'attend pas forcément à cet endroit-là. Je pense par exemple à Nathalie Riquiel, qui m'est apparue tout d'un coup il y a quelques mois. Elle avait écrit et lu un discours parce qu'on remettait une Légion d'honneur à une amie, et tout d'un coup je me suis dit mais oui, Nathalie a un rapport à la langue, aux mots. Elle a écrit d'ailleurs des romans également, et son timbre de voix, sa singularité, je trouvais que du coup, avec des femmes comme Emmanuelle Berco ou Françoise Fabian, Éric Cantona, Gaëtan Roussel, qui est chanteur. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller chercher des personnalités qui viennent d'horizons très différents, qui ont une histoire singulière et qui du coup sont un peu ma famille. Voilà, j'ai créé ma famille.
Et l'idée, c'était, à travers leur présence, à travers les mots, de représenter la beauté sur scène.
Mais en fait, avec Sophie, quand on a commencé à réfléchir à cet après-midi d'ouverture, on a pensé à ces gens-là. C'est-à-dire que le choix des poèmes s'est fait aussi. Alors après, c'est un fantasme pur. C'est que tout d'un coup, on a lu ensemble des poèmes et on s'est dit, Éric Cantona et Gaëtan Roussel ensemble sur du Michaud, ça va être exquis, et on s'est pas trompé. Que ce soit sur Akhmatova, Tsvetaeva, pour Neruda, chaque poème a été vraiment pensé aussi en fonction des différentes personnalités.
Alors, comment représenter la beauté? C'est ce qu'a tenté de mieux comprendre Amélie Beaucourt, qui s'est essayée à un exercice assez périlleux. Elle a modestement promené son micro dans le 6e arrondissement de Paris et dans le sillon des surréalistes, le temps d'une tentative de cadavre exquis avec des textes improvisés.
À ta beauté, désormais mon délice, j'obéirai comme un prédestiné.
Le doux souvenir de ton odeur hantée
darde de ses rayons les contours de son visage apaisé.
Et je saisis le temps d'un instant ta beauté éphémère.
Beauté divine, source de tous les dangers, tes griffes assassines ont fini par me piéger.
À travers ton regard, je découvre ton nom, et lorsque je repars, je recouvre ton ombre.
La beauté appartient à celui qui la regarde.
Petite princesse sera belle lorsqu'elle relèvera sa couronne.
Comme les fleurs veillant sainte beuve, et que les fleurs du mal retrouvent le chemin du bien.
Longtemps je t'ai cherché, beauté si ancienne et si nouvelle. Je te cherchais loin de moi, et c'est en moi que tu étais.
Et c'est en moi que tu étais, prise, sinon volée, dans ton immuable intériorité. Toi, ma douce incapacité à t'aimer, je te cherche, je t'attends. Tu me noies, tu me vides, tu me dépouilles. Mais je t'attends.
Il est mort en combattant et attend patiemment les valkyries chevauchantes. Il ne récoltera que les pleurs de ses amantes, de douces figures à qui il n'avait promis que de longues attentes.
Sophie Nolo, petit regard sur...
C'est la vraie vie. C'est ce que je trouve si touchant avec le Printemps des poètes, c'est que tout le monde s'en empare.
Sommes-nous tous des poètes?
Moi, je ne crois pas. La preuve, je vous ai dit que je ne l'étais pas. Non, moi, j'ai un grand respect. Je sais pas si c'est du respect ou de l'admiration, mais en tout cas, je sais ce qui, dans un texte, tout d'un coup, va me transporter ou pas. Donc, non, je ne crois pas que nous soyons tous poètes. Alors, parfois, on peut l'être, mais au sens où...
Sans le savoir, peut-être.
Ou alors, au sens où on le disait chez moi, j'aimais bien, parce que dans ma famille, quand on disait c'est un poète, franchement, ça n'était pas un compliment.
Ah oui.
Et donc, ça me plaît bien de défendre la cause des poètes aujourd'hui pour montrer qu'un poète, ça existe bel et bien. Mais là, ce qui est beau, c'est que justement, on entend ce phrasé, à la fois les gens s'emparent de bouts de verre, et ils en font autre chose, et le cadavre exquis, c'est ça aussi, il faut que tout le monde puisse en jouer.
Alors vous êtes poète, Bruno Doucet, bonjour.
Oui, bonjour.
Poète et éditeur, et la beauté, ça vous a inspiré, oui. Hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous avez même osé, puisque comme chaque année, à chaque printemps des poètes depuis 9 ans maintenant, les éditions que vous dirigez publient une anthologie autour du thème choisi, donc la beauté cette fois-ci, avec Thierry Renard. Vous écrivez la préface de ce recueil avec cette phrase, vous évoquez, je vous cite, « le pari fou ». De vouer une société en crise à la beauté. Le monde dans lequel nous vivons, faire le pari de la beauté serait donc une folie?
Ah, c'en est une, mais c'est une folie nécessaire. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit au début de cette émission et qui m'a beaucoup touché. Le premier mot, c'est la question de la perte. Il n'y a pas de beauté sans cette mort qui nous attend. C'est ce que Sophie a dit au début de cette émission. Et je suis vraiment touché par cette idée-là. Peut-être aussi parce que le petit garçon que j'étais, à 9 ou 10 ans, a commencé à écrire des poèmes, justement après des deuils familiaux. Et puis, je crois que la poésie, c'est une fragilité consentie. On consent à cette fragilité, et c'est de cette fragilité qu'on tire la plus grande force qui soit, puisque cette force est partageable. Le partage est même la condition du poème, puisque le poème est un énoncé suffisamment incomplet, inachevé, pour laisser à autrui sa place, pour offrir et ouvrir à l'autre un espace d'interprétation. C'est donc l'espace démocratique par excellence. Et alors, à l'heure où on voudrait nous faire entrer dans une pensée binaire, gilet rouge contre gilet jaune, dire oui ou non lors de référendum, qui serait étrangement une sortie de crise, eh bien, je trouve que la plurivocité du poème, ses voix multiples, ses multiples approches comme celles que l'on vient d'entendre, là, il y a quelque chose qui est absolument fondateur de la liberté d'autrui. Donc, c'est pour cela que je suis dans ce lieu, qu'est le poème en tant qu'auteur et en tant qu'éditeur.
Alors vous parliez de partage à l'instant, Bruno Doucet, vous l'opposiez justement aux affrontements binaires, hein, pour reprendre ce que vous disiez. Et pourtant les poètes que vous avez retenus, et je vous cite toujours, ce sont des insurgés, des rêveurs, des dissidents, des rebelles, une assemblée qui, je cite encore vos mots, déferle, crie, chante, vitupère. Ça veut dire que dire la beauté avec de la poésie serait subversif, serait violent, serait révolutionnaire?
La poésie, c'est une manière de faire craquer la langue. C'est une manière de mettre le langage en ébullition et en état de veille. Ça ne veut pas dire que le poète avance dans la rue avec un couteau entre les dents.
Vous me rassurez.
Voilà, bien sûr. Et puis lorsque l'on construit une anthologie et que l'on convoque, comme nous l'avons fait avec Thierry Renard, 105 poètes, c'est considérable, eh bien forcément c'est une espèce d'armée de tendresse que nous levons. C'est cela que nous faisons lorsque nous constituons une anthologie.
Une anthologie qui a pris la forme d'un éphéméride, il y a 12 chapitres, comme autant de mois dans l'année. Comment cette forme s'est-elle imposée, Bruno Doucet?
Alors, comment s'est-elle imposée? Je me suis d'abord dit comme Enki Bilal, mais waouh, la beauté, c'est gonflé, c'est compliqué. Parce que d'abord, il y a un usage terriblement perverti du beau. Les femmes, il faut le dire, sont probablement celles qui en font les frais. Il y a cet usage perverti du beau, il y a ces diktats d'une esthétique académique qui nous vient de loin. Voyez, alors donc il fallait trouver une idée pour montrer que la beauté n'est pas l'apanage d'un moment de la vie ou d'une saison de la vie ou d'une saison de l'année, et que la beauté c'est tout le temps, de la naissance à la mort, à tout moment.
Mais elle évolue beaucoup.
Mais
la
elle
beauté
évolue.
Il fallait une
manière de l'appeler à la rescousse du vivant dans toutes les situations de vie. Donc je me suis dit, finalement, la beauté, c'est du 1er janvier au 31 décembre, et même la cinquième saison, s'il en est une.
Voilà. Vous voyez ? Alors chaque fois qu'on a une anthologie entre les mains, Bruno Doucet, on se pose toujours la même et éternelle question, c'est la question du choix. Comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez procédé? Il y avait des critères de sélection. En plus, la beauté, on le disait, c'est un thème tellement large, tellement vaste.
C'est comme la vie, c'est comme l'amour. C'est choisir, c'est exclure. Voilà. Et donc, forcément, on rassemble 105 poètes, mais on en laisse beaucoup sur le côté, qui entreront peut-être l'année prochaine ou qui sont entrés l'an dernier dans l'anthologie du Printemps des Poètes.
Mais la diversité, par exemple...
Cette diversité, pour moi, elle est essentielle. Faire en sorte qu'il y ait à peu près autant de voix d'hommes que de femmes, autant de voix venues d'ailleurs que de voix d'ici, c'est quelque chose de fondamental.
Pas seulement des francophones d'ailleurs, au passage la question de la traduction.
Je crois que les 5 continents sont présents dans cette anthologie, il y a des traductions, il y a un grand poète israélien qui n'a jamais été traduit en langue française et qui publie son premier texte en langue française dans ce livre, il y a un inédit d'Octavio Paz, prix Nobel de littérature, bon, ça fait plaisir.
Voilà. Il y a de la prose et des vers, il y a des textes en rime et d'autres pas du tout.
Il n'y a pas beaucoup de textes en rime, mais bon.
Voilà, quelques-uns quand même, pas énormément. Alors l'idée évidemment aurait été de choisir un poème par mois, mais le temps évidemment nous est compté, nous sommes à la radio. Nous avons donc choisi un poème par saison et nous allons commencer, c'est assez logique, par le printemps. C'est l'actualité, avec un texte inédit jusqu'ici, « La peau que j'aime » de l'écrivain haïtien Louis-Philippe d'Alembert.
J'aime la peau qui craquelle, la peau qui vergéture, la peau qui fissure, s'étire, plie et ne rompt point, qui porte en bandoulière ses flétrissures, toute honte bue, la peau qui s'est colletée à mille et une blessures sans se rendre jamais, la peau qui pèle de tant de guerre avec la vie. J'aime la peau lisse de fleurs à peine écloses, la peau vierge de toute égratignure, la peau au sourire de jais dans le noir, tour à tour mate et luisante, la peau albâtre et rose, la peau bridée d'inexpérience et de pudeur, prête à changer de grain et de couleur au moindre émoi. La peau vitrine sur l'intime, la peau aux allures de princesse, dans la fange la plus crasse, la peau catin vautrée dans la soie. J'aime la peau marinée de luxure et de curiosité, la peau qui ne chichite point, qui s'étourdit de plaisir, à y laisser la peau. La peau qui grince et continue d'avancer, la peau de vieille carrosserie, toute pleine de lustre d'antan. La peau qui nostalgise sans amertume, la peau éternelle, assoiffée, qui dit hier mais pense aujourd'hui plus que demain. La peau qui vit si m'en croyait, la peau hic et nunc, la peau d'impatience parée, ivre toujours de remonter le sang. J'aime la peau à l'odeur d'ylang ylang, la peau à l'odeur de citronnelle au petit matin, ou quand le jour hésite, tergiverse, avant de basculer dans la nuit. La peau à l'odeur musquée des mangues de l'enfance, celle à l'odeur de fruits exotiques tels la pêche ou la pomme en cuisson, la peau de thé vert aromatisé d'ailleurs, la peau à l'odeur de sueur puis de bougainvilliers. J'aime la peau par-dessus tout qui a vécu, la peau qui s'est frottée avec allégresse contre mille autres peaux, la peau qui est peau. J'aime ta peau.
Rachida Brakni, vous le connaissiez ce poème avant de l'entendre, je crois que vous l'aimez beaucoup.
Je l'aime beaucoup.
Comment est-ce que vous avez goûté les mots de Louis-Philippe d'Alembert ?
Ah mais ça a été immédiat, je trouve que c'est d'une sensualité, d'une force, d'une puissance et à la fois d'une simplicité. C'est ça que je trouve très très beau, c'est que il y a voilà, c'est une étendue qui s'offre à vous mais je sais pas, c'est comme si vous prenez par la main et il vous faisait découvrir voilà, différents continents qui sont qu'on peut retrouver. C'est comme une cartographie du corps, en fait, presque aussi. C'est très, très beau. En fait, j'adore la poésie quand elle est à la fois complexe et si simple. Cette forme de naïveté qui, voilà, que j'entends, moi, là, par exemple, et que je trouve très, 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 très belle.
Vous êtes une grande lectrice de poésie?
Oui. Enfin, une très grande, non, pas autant que mes camarades, je lis beaucoup de poésie.
À des moments précis, privilégiés, il y a des instants où vous avez besoin de.
Non,
de
j'ai toujours avec moi un recueil de poésie. J'aime entrer dans une librairie et puis très souvent je vais au rayon poésie. Ça me permet de découvrir un certain nombre de poètes. Et puis c'est vrai que depuis que je me suis mise à la chanson et que j'écris des textes, je trouve beaucoup d'inspiration chez les poètes. Et ce qui fait que de toute façon sur ma table de nuit j'ai toujours un recueil de poèmes et j'aime avant de m'endormir lire quelques vers.
Et quels sont les poètes qui vous accompagnent ?
Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Dickinson, que j'aime beaucoup. Sylvia Plath. En ce moment, je suis beaucoup dans Pessoa parce que je vis à Lisbonne et que je découvre Pessoa. Mais je connais très bien les éditions Doucet puisque j'en ai un certain nombre et ça me permet de découvrir des poètes contemporains. Mmh. Voilà, j'ai découvert très récemment Mara Melmasri, qui est une poétesse syrienne que je trouve formidable, voilà.
Qu'est-ce que vous attendez de la poésie, Rachida Brakni? Est-ce que vous lui assignez une forme de mission?
Non, mais je pense que c'est la mission, elle est presque inhérente à la au statut de poète. Mais moi, je lui assigne pas cette mission. Non, moi, elle me fait voyager, tout simplement. Et les mots me font voyager.
Alors, dans cette anthologie publiée par Bruno Doucet, il y a un texte de Jean-Pierre Siméon, qui est votre prédécesseur à la tête du Printemps des Poètes, Sophie Nelot, et il écrit dans ce texte qu'il croit à une politique de la beauté. Une politique de la beauté, vous y croyez aussi?
Je ne sais pas, en tout cas j'aime beaucoup le dernier vers, qui est la rose incendiaire de quelque chose. Enfin, le dernier vers de ce poème-là, qui a été dit au Vieux Colombier par Sylvia Berger. D'ailleurs, c'était Serge Bagdasarian de la Comédie Française également qui disait ce poème « La peau » la semaine dernière en lecture inaugurale. Et je ne sais pas, je suis très différente de Jean-Pierre. Je l'admire d'avoir tenu 16 années à la tête du Printemps des Poètes. Avec tous les S et les liaisons à faire parce que c'est du boulot.
Oui.
C'est rude à faire. La politique, bien sûr que c'est important de se poser cette question-là, surtout avec un thème pareil. En même temps, moi, je me sens plus touchée par cet intitulé, par exemple, d'éphéméride poétique. J'aime beaucoup le mot éphéméride. En plus, je suis toujours à me demander si c'est masculin ou féminin.
Oui,
chaque fois, j'hésite.
Aussi,
et j'adore ça.
Féminin.
J'adore
oui,
cette idée. Et puis là, le poétique garde l'ambiguïté. Mmh. Et j'aime beaucoup ça. À jamais ne pas le savoir.
Voilà. Mais entre poétique et politique, la différence
évidemment
sonore est quand même assez faible, Bruno Doucet. D'ailleurs, vous êtes assez taquin parce que le titre du chapitre Mars de votre anthologie, c'est « La beauté sauvera le monde ». Et quand on tourne la page, le lecteur poursuit avec cette phrase magnifique de René Guicadou « La poésie est inutile comme la pluie ».
Mais que voulez-vous que je vous dise de plus simple et de plus pertinent que cela? Non, je pensais pour ce chapitre, bien évidemment, Mars, c'est quand même le dieu de la guerre. Et puisque nous avons décidé d'attribuer à chaque mois de l'année une valeur symbolique et une thématique avec des contrastes forts, janvier, l'émerveillement devant ce qui naît, février, c'est carnaval grimaçant. Alors on arrive au mois de mars, c'est le dieu de la guerre. Et je me suis dit, mais finalement, nous, poètes et amoureux de la poésie, nous cherchons à reconquérir un royaume qui est un peu perdu dans nos sociétés. Et donc, nous cherchons à semer la poésie, à faire en sorte que la poésie puisse transformer le blues du dimanche soir en un optimisme du lundi matin. Et puis, la poésie nous aide à retrouver ce que Jean-Pierre Siméon appelle la probité des fleurs. C'est-à-dire qu'elle nous permet de nous mettre dans le langage sur la pointe des pieds pour être à la hauteur des enjeux d'existence qui sont devant nous.
Voilà, la beauté audacieuse n'a qu'une loi, elle exige de l'homme la probité des fleurs,
voilà,
écrit effectivement Jean-Pierre Siméon.
Donc pour moi c'est ça, alors il fallait ce passage par des textes qui nous montrent comment la beauté peut ensemencer le monde dans lequel nous vivons et à commencer par nos vies. Et puis alors, après, on poursuit avec Avril et le corps qui exulte. Donc c'est le texte de Louis-Philippe d'Alembert qui illustre merveilleusement ce propos. Mai et la nature à son tour qui se met à chanter. Juin est une intériorité, c'est l'aspiration à plus de liberté. Et puis juillet quand même, Rullius, le mois de Jules César. C'est horrible. C'est horrible. C'était un tyran.
Oui.
Mais oui. Donc,
ah oui, on en revient à la politique.
Mais bien sûr. Mais là, je me suis dit, mais il y a quand même une tyrannie du beau. Et donc, nous allons chercher des textes qui nous disent, eh bien, non, c'est dire non à cette tyrannie. Et c'est la jeune poète turque Müyeser Yenaé qui pousse un cri en disant que la virilité est une maladie grave. Elle l'a d'abord envoyée sur les réseaux sociaux, cette jeune femme en Turquie, avant que ce texte ne soit publié. Il fallait du courage. Et puis, c'est la poète sud-coréenne Moon Chung-hee qui raconte l'épopée du maquillage. J'adore ce poème.
Oui, parce que le maquillage, c'est précisément la tyrannie du beau, Rachida Brakni.
Je connais pas ce poème, donc je ne sais pas.
Mais il y a effectivement une forme d'injonction à la beauté aujourd'hui dans la société contemporaine, notamment à travers la presse, à travers les médias d'une façon générale.
Ah oui, oui, oui.
On est dans la tyrannie de la beauté, pour reprendre le titre effectivement
du chapitre de l'anthologie. Bien sûr, mais c'est assez troublant d'ailleurs parce que aujourd'hui un certain nombre de femmes s'insurgent contre ça et malgré tout. Chez ces mêmes femmes qui s'insurgent, beaucoup d'entre elles sont malgré tout prisonnières de ça.
Dans le milieu du cinéma, dans le milieu du théâtre, ça doit aussi exister.
J'ai un exemple comme ça qui me vient en tête. Il y a quelques semaines, un certain nombre de femmes étaient vent debout contre les propos de Yann Moix.
Qui avait expliqué qu'il ne pouvait pas aimer une femme qui avait son âge.
Voilà, pour faire ça. Aimait les jeunes femmes. Et j'ai été très troublée parce que un certain nombre de femmes condamnaient ces propos. Et dans le même temps, si on les met face à leurs contradictions, les couvertures de magazines ne sont pleines que de ça. Prenez toutes les couvertures de magazines, les féminins, c'est terrifiant. Et ces mêmes femmes-là ne s'insurgent pas contre la presse, contre tous ces dictates finalement, la publicité, tout ce qu'on nous renvoie, c'est terrifiant.
Alors cette tyrannie du beau, Sophie Nolot, est-ce qu'elle ne s'exerce pas aussi, d'une autre façon évidemment, pendant le travail d'écriture qui est celui du poète? Parce qu'il y a par exemple aussi dans l'anthologie cette citation de François Chingue. Chaque jour, il faut repartir de la feuille blanche, plonger en soi, se mettre en quête de vérité et de beauté. Il faut impérativement écrire beau, sinon l'on n'est pas poète.
Évidemment non. Et au contraire, ce que dit François Cheng, ce qui est très émouvant avec François Cheng, qui aura 90 ans à l'été, qui a retrouvé souffle en France via la langue française, lui aussi, qui a redécouvert ce lyrisme qui lui était interdit. Ce qui est beau, c'est que cet éloge de la beauté, au contraire, c'est pas du tout, ça n'est pas pour faire beau, évidemment, son propos n'est pas là, mais c'est une question de souffle. François Cheng, vous parlerez du souffle chinois, l'énergie vitale, le qi. Si le mot beauté arrive, c'est parce qu'à l'oreille, il était nécessaire, mais la sève en lui n'est pas là. Elle est dans les mots, dans leur polysémie. Bruno Doucet tout à l'heure parlait de ce côté magique de la langue qui est polysémique. Chez François Cheng, c'est très beau parce qu'à chaque fois, il a ce jeu assez enfantin, comme quelqu'un qui redécouvre une langue. Par exemple, le chiffre 9, qui est à la fois ce chiffre et qui est aussi le côté 9 de la ville, le côté 9 des choses. Et plutôt que de parler d'une injonction de beauté, je dirais plutôt qu'il y a une nécessité ontologique pour le poète d'être exact au rendez-vous qu'il s'est fixé, c'est-à-dire de son être et donc de son souffle, de sa pulsation. François Cheng n'écrit pas aujourd'hui comme il écrivait il y a 20 ans. Michel Houellebecq, ses poèmes entre les tout débuts de Rester vivant et Configuration du dernier rivage, ça n'est pas le même homme. Ça s'est raccourci, ça s'est densifié, ça s'est essoufflé au sens premier du mot. Et donc non, pas du tout. Et vous ne trouverez pas un poète pour vous dire qu'il écrit pour faire beau. Évidemment que c'est infiniment plus indispensable et plus puis c'est une chose aussi qui vous échappe, c'est ça qui est, quand on dit que la poésie est belle, parfois c'est atroce, et justement ce qui fait les fleurs d'Imal, enfin chez Baudelaire, il y a des choses qui vous donnent la chair de poule rien que de le lire. Il n'y a pas une question qui soit forcément comme ça obligatoire de, il n'y a pas un objectif de résultat, enfin c'est quoi dans la vraie vie, une obligation de résultat et de beauté, évidemment non, mais comme par enchantement ou comme par tragédie, ça dépend du versant et des jours, il y a quand même un truc qui chante ou qui déchante et qui du coup vous reste dans la mémoire et qui touche à un état de grâce qui n'est pas si loin de la beauté.
Également dans ce chapitre intitulé « Tyrannie du beau, consommation », c'est le titre de ce poème de Michel Baglin qui figure donc lui aussi dans cet éphémérite poétique consacré à la beauté.
Nous n'avons rien à opposer aux tristes effigies de la mode, aux accros des chiffons griffés à fleur de peau, victimes des slogans mais fiers de l'être, et si contente à leur fille de transmettre l'arrière-goût délicieux des futilités. Rien, sinon la beauté offerte, un souffle de vent, l'arbre pour saluer de toutes ses branches un ciel échevelé, des cieux changeants. Nous n'avons rien à opposer aux arrogants de l'asphalte dont l'angoisse ravale et crisse sous les pneus, qui s'excitent à talonner leur libido fuyante et s'épuisent à jouer de l'accélérateur pour tenter au volant de prendre leurs pieds. Rien sinon l'orage, la course du vent, l'arbre pour brasser de toutes ses branches le grand tourment des cieux sauvages. Nous n'avons rien à opposer aux étals où le désir se laisse prendre, où l'homme se réduit au chaland, où les besoins fabriqués veulent qu'on consomme d'autant plus qu'on achète avec le superflu le désert intérieur et son propre néant. Rien sinon la gratuité, une cajolerie du vent, l'arbre qui chante de toutes ses branches, les cieux offerts à l'incommensurable présent. Nous n'avons rien à opposer aux banques achetant à crédit notre temps, nos rues, nos villes, nos vies, nos pays et même le monde et même l'air qu'on respire, tirant des traits à tout va sur le vide, aliénant le virtuel, monnayant le vivant. Rien sinon la joie, une sérénade du vent, l'arbre qui célèbre de toutes ses branches les cieux donnés sans compter. Mais qui peut dire si à nous sauver le ciel suffira vraiment ?
Consommation, un texte de Michel Baglin issu de son recueil Un présent qui s'absente. Alors Bruno Doucet, on le disait, hein, le thème de ce 21e printemps des poètes, ce n'est pas le beau, mais la beauté. Dans l'anthologie, vous parlez de la beauté qui sauvera le monde, de la beauté du monde, de la beauté du geste, de la beauté des choses, de la beauté dans l'art. Vous faites rimer invisible beauté avec liberté, mais quand vous parlez de tyrannie, vous passez subitement au masculin. Pourquoi vous dites la tyrannie du beau et pas la tyrannie de la beauté?
C'est bien, non? Et c'est bien que quelqu'un l'ait remarqué, ça me fait vraiment plaisir.
C'est pas totalement
parce que
le
parfois,
hasard.
Mais non, c'est pas tout à fait le hasard. Et on travaille beaucoup pour faire un livre comme celui-ci et on se dit, mais est-ce que les lecteurs vont voir ça?
Eh ben, voyez, voilà. Je l'ai vu. Hein, mais alors, donnez-moi l'explication maintenant.
Vous l'avez donné. Mais parce que dans ce monde, la tyrannie, c'est majoritairement les hommes qui l'exercent. C'est une évidence.
Bon, cela dit, pour être tout à fait honnête,
mais parfois aussi, mais
merci Rachida.
Demander à la poète qui vient de Libye, Aïcha Moghrabi, ce qu'elle en pense. Demander au poète de Djibouti, Chemwata, ce qu'il en pense. Et demander aux poètes coréens, en particulier aux femmes qui ont connu des situations d'oppression parce que la pensée confucéenne a joué longtemps contre elles, ce qu'elles en pensent. Et vous verrez. Donc voilà, mais ce qui est intéressant, c'est la diversité des points de vue, des approches, les multiples pistes qu'offre une anthologie et qui n'enferme pas le lecteur. Chacun peut reconstruire le parcours qu'il souhaite. Mais en tout cas, c'était bien de pouvoir faire jouer comme un kaléidoscope cette thématique de la beauté. Et voyez par exemple ce qu'apporte le chapitre du mois de septembre sur la beauté du geste, c'est formidable. Il y a des textes étonnants. À commencer par celui de Gabriel Cousin, qui semble avoir été écrit pour aujourd'hui par quelqu'un de notre temps, alors qu'il a été écrit il y a plusieurs dizaines d'années.
Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons. Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous épanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait et montait comme une vague où s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique comme l'eau courante et le vent, où le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière
derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous mon ange, ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements. Quand vous irez sous l'herbe et les fleurs en grâce, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés.
Léo Ferré sur RFI, Léo Ferré qui chante Charles Baudelaire et son poème Une charogne, poème qui figure, Bruno Doucet, dans cette éphéméride poétique dédiée à la beauté. Là, on est au mois de février et vous placez d'ailleurs juste avant ce texte une phrase du peintre Paul Gauguin que je voudrais soumettre à l'esprit et à la sagacité de Sophie Nolot. Le laid peut être beau, le joli, jamais. Vous êtes d'accord?
C'est parce que j'ai fait l'école du Louvre que vous
par
me
exemple.
Demandez Gauguin. C'est taquin. Mais quelle merveille, Ferré. Oh, quand même, là, pardon, je suis encore dans l'écho de cela. Si j'avais fait une anthologie pour ces 20 ans du printemps des poètes, je crois que j'aurais pris pour titre « Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses », ce vers d'Aragon de l'affiche rouge que Ferré a chanté. Gauguin, je ne sais pas, évidemment.
Mais la différence
évidemment.
Entre le beau et le joli.
Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, vous dites le beau. Alors, moi, je ne serais pas forcément sur cette idée que c'est parce qu'il est masculin qu'il est forcément réducteur ou néfaste. Il y a tout ce
petit
tout
désaccord ce, au sein voilà. du printemps des poètes entre Bruno Doucet et Sophie de
Mais parce qu'évidemment, il faut bien qu'une femme un peu rende justice aux hommes.
Merci.
Tout en sachant qu'il y a des misogynes infréquentables. Nous sommes d'accord.
Absolument.
Évidemment que tout d'un coup, c'est un concept, en fait. Ce qui fait que j'ai choisi la beauté et non le beau, c'est que je ne voulais en rien être dans un consensus philosophique ou dans un jugement de valeur. La beauté, c'est un mot, c'est une chose. Voilà, Rachida, au début, disait le vague et le vaste, c'est exactement ça. Le beau, le laid, enfin, tout ça, après tout, ça n'est pas notre affaire. Et il ne s'agit pas de cela. Donc, c'est ce qui est magique, là, dans le Ferré qu'on vient d'entendre, parce que le poème de Baudelaire joue précisément de cela. Et la voix de Ferré, qui avait cet art de couper dans les poèmes, bon, là, le Baudelaire, il le prend en entier, parce que Baudelaire a cette brièveté dans la charogne. Mais ce qu'il a fait sur Aragon, savoir sabrer une strophe trop longue pour tout d'un coup en faire la chanson du siècle, c'est quand même, waouh! Et Rachida disait combien ça, c'est toute son adolescence, Ferré qui chante Baudelaire. C'est cette magie-là aussi des chanteurs qui ont fait que les poèmes nous sont entrés par l'oreille, dans le sang, dans la mémoire, comme une comptine qu'une mère vous a racontée. Enfin, c'est ça qui est beau avec la chanson.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Une émission spéciale aujourd'hui autour du Printemps des Poètes avec Sophie Nolot, qui en est la directrice artistique, avec la marraine de cette édition, la comédienne Rachida Brakni, et Bruno Doucet, dont les éditions publient une anthologie consacrée à la beauté, éphéméride poétique pour chanter la vie, établie par Bruno Doucet et par Thierry Renard. Alors, quelle relation entretient-on aujourd'hui avec la poésie? Amélie Beaucourt, encore elle, est allée à la rencontre de quelques consommateurs attablés à la terrasse de Café Parisien et elle leur a soumis quelques citations d'écrivains sur la poésie afin de guider leurs réflexions.
La poésie, c'est tout ce qu'il y a d'intime dans tout. Victor Hugo. Pour moi, la poésie résume les mots et pour moi, les mots les plus importants se gardent pour nous.
C'est un peu un messager entre le subconscient et la parole écrite avec des mots concrets pour expliquer des choses pas concrètes.
C'est une accompagnatrice de vie qui permet en fait de voir la vie avec un spectre très différent. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses, par exemple, comme elles sont, mais en tout cas avec un filtre subjectif. Et finalement, on poétise la relation qu'on a à l'objet de par les sensations que l'on éprouve.
La plupart des hommes ont de la poésie une idée si vague que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de la poésie. Paul Valéry.
Et effectivement, la poésie, c'est un peu compliqué à définir. Je trouve que c'est un genre littéraire particulièrement complexe à comprendre, qui n'est pas accessible à tous, en fait.
Je pense qu'il faut adhérer aussi au concept que l'auteur met en place et que pas forcément hyper facile.
La poésie, ça, c'est l'idée. Toute idée là-dessus, de Jean Cocteau. La poésie, qui peut être parfois abstraite, montre bien à quel point les idées définis de la vie ne sont pas toujours vraiment un sens, parce que justement tout ce qui nous dépasse peut être la vérité.
Pour moi, la poésie, c'est pas quelque chose qu'il faut réfléchir. C'est avec nos tripes qu'on le porte, et la poésie peut s'exprimer de différentes façons. Il faut que ça vienne du cœur avant tout, je pense.
Rachida Brakni, qu'est-ce que vous retenez de ce que vous venez d'entendre ?
Alors, j'acquiesce et j'adhère totalement à ce que vient de dire ce jeune homme.
Ça vient du cœur, il ne faut pas trop y réfléchir.
Oui, du cœur, oui. Et puis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas intellectualiser. De toute façon, il est impossible de donner une définition de la poésie. Je pense que voilà, la poésie, sa définition, on pourrait en donner une chaque jour, ce serait infini. Infini, parce que c'est tellement de l'ordre de l'intime. En revanche, il y a une jeune femme qui disait que c'était compliqué, à comprendre, à saisir. Mais j'aimerais avoir cette jeune fille là en face de moi.
Pour la convaincre du contraire.
Mais oui, mais j'aurais même pas besoin de la convaincre. Je lui mettrais juste quelques poèmes, sous les yeux, et elle verrait que la poésie, elle s'adresse à tous.
C'est vrai, mais ça peut faire peur, effectivement, la oui, poésie, Bruno Doucet. D'autant qu'on a souvent le souvenir de la poésie presque pince-homme étudiée à l'école, la récitation, quand on obligeait les élèves à réfléchir à la métrique, aux intentions supposées des poètes. Il y avait un petit côté rébarbatif
apprendre par cœur, etc.
C'est une erreur.
Mais oui,
ce genre de comportement face à la poésie dans l'éducation nationale.
Je me souviens d'un étudiant qui, en Cagne, avait tiré comme sujet de colle l'usage du tétramètre anapestique dans la poésie de Baudelaire.
Voilà.
Alors, voyez, des choses comme ça, c'est terrifiant, parce que ça veut dire que les enseignants sont devenus parfois, malgré eux, des médecins légistes de l'écriture poétique, qui font merveilleusement l'anatomie du texte, qui savent en montrer les figures de style, les procédés d'écriture, etc., mais qui ne sont pas forcément en capacité d'en faire entendre la vibration. Or, nous, ici, eh bien, nous pensons que seule la vibration est partageable et qu'elle compte.
Rachida Brakni, vous étiez une amatrice de poésie lorsque vous étiez à l'école ?
Oui, j'ai découvert la poésie grâce à un instituteur. C'était sur un poème de Prévert. C'était « Il dit oui avec la tête, il dit non avec le cœur ».
Ah, le cancre !
Le cancre, tout à fait. Et justement, cet instituteur était absolument merveilleux dans son approche de la poésie. On a souvent tendance à oublier qu'il y a quelque chose de très ludique dans la poésie. Et justement, pour rebondir sur ce que vous dites, les figures de style, pardon, mais j'ai presque envie de dire qu'on s'en fout un peu quand on est enfant. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai le souvenir d'avoir été confrontée à ça, où il y avait un côté très rébarbatif, où il fallait apprendre voilà ce qu'était un enjambement, ce qu'était une césure, alors que c'est presque secondaire, ça, en fait. Et c'est vrai qu'il faut retrouver cette notion de plaisir avant tout. Et puis, oui, cette chose ludique.
Elle aide à se tenir debout, la poésie, Rachida Brakni.
Oui, mais elle aide à tout, la poésie. Je crois que... Moi, je dis toujours que la poésie, en tout cas, moi, personnellement, mon rapport à la poésie, vous savez, chacun a une bande-son sonore de sa vie. C'est-à-dire que tel chanteur, vous l'associez à telle période de votre vie. Et ben moi, j'ai une bande poétique de ma vie. Mais vraiment, c'est-à-dire que, voilà, on parlait de Baudelaire, de Rimbaud, ben c'était mes 15-16 ans, à 18 ans, quand je découvrais la politique, entre guillemets, et que j'étais... un peu rebelle, entre l'adolescence et la jeune femme, c'était Aimé Césaire. Donc en fait, les poètes ont toujours été un écho aux différentes étapes de ma vie. Et pour moi, c'était très important de puiser en eux et de me nourrir en eux, voilà, de nourrir mon amour, mes premiers amours, de nourrir ma colère, de nourrir ma joie, mes déceptions. Et je trouve que oui, c'est un formidable outil, la poésie, pour ça.
Merci beaucoup à tous les trois d'être passés nous voir. Sophie Nelot, Rachida Brakni, Bruno Doucet. Je signale ce mardi soir la lecture par Didier Sandre de la Comédie Française de la correspondance de Mallarmé. Ça se passe au studio Raspail, ou encore après-demain, jeudi, toujours à Paris, une carte blanche au comédien François Martouret à la bibliothèque de l'Arsenal. Combien d'événements en tout jusqu'à la fin de ce printemps des poètes sont prévus, Sophie Nelot ?
Des milliers.
milliers. Partout en France et même jusqu'à l'étranger.
Voilà, c'est jusqu'au 25 mars avec un spectacle de clôture dédié à Paul Éluard. Dans un instant, le journal sur RFI. À demain et vous m'en direz des nouvelles.